Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christophe Paco, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bonjour Christelle.
Bonjour à vous tous.
Ravi de vous retrouver pour RTL Midi. Vous le savez, c'est le grand carrefour de l'information de votre mi-journée. RTL Midi, c'est votre émission pour commenter ensemble l'actualité du jour. Toutes vos réactions, tous vos appels au 3210 et vos commentaires également sur tous les sujets qui vous interpellent, vous intéressent sur la page Facebook de l'émission RTL. Les auditeurs ont la parole. Et dans l'actualité, Christelle, aujourd'hui, un naufrage sur une île déserte.
Le tournage de Koh-Lanta aux îles Fidji qui venait de commencer est annulé. Les producteurs de la célèbre émission de TF1 évoquent pudiquement un événement entre deux concurrents. Les détails avec Isabelle Morini-Bosque dans un instant et nous aurons en ligne Wendy, la gagnante d'il y a 2 ans. Ils ont bloqué les examens au centre d'Arcueil en région parisienne. Toutes les épreuves d'aujourd'hui et de demain que devaient passer les étudiants de Nanterre sont annulées. Opération coup de poing de plusieurs centaines d'opposants à la réforme de l'université. Dans RTL Midi aussi, des taxis amateurs en pleine campagne. Le gouvernement veut les autoriser dans les zones dépourvues de transports en commun. Les taxis, eux, y voient une concurrence déloyale. Si vous êtes chauffeur de taxi, réagissez au 3210. Les SAMU de toute la France débordés d'appels insultants. À Strasbourg, l'opératrice qui avait pris à la légère l'appel de Naomi a été suspendue à titre conservatoire. Dans RTL Midi aussi, dans notre rubrique automobile, comme tous les vendredis, nous reviendrons cette fois sur la chute du diesel. Est-il condamné? Le constructeur Nissan arrête à son tour la fabrication de ses moteurs. Dites-nous au 3210 si vous avez changé ou pas de motorisation. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Une belle journée de printemps.
Très ensoleillée cet après-midi sur la plupart des régions. On a simplement quelques passages nuageux encore une fois du côté des Alpes, donc risque d'averse et toujours cette activité orageuse sur le relief. Du côté de l'Atlantique, le ciel va devenir de plus en plus nuageux cet après-midi à l'approche d'une perturbation qui donne déjà de la pluie sur la pointe du Finistère. Partout ailleurs, du soleil et des températures qui repartent à la hausse. Ce matin, c'était très très frais. On a observé quelques gelées blanches, notamment dans la Marne, la Creuse ou encore dans l'Oise. Cet après-midi, 14 degrés de minimum à Brest, 21 à Lille, 23 à Paris, Nancy et Marseille et 26 à Bordeaux.
Merci beaucoup Patricia Charbonnier. Tous les détails, hein, juste avant 13h comme tous les jours. Et puis après 13h, votre toute info, suivi d'une histoire d'un jour sur la Terre. Et enfin, 13h50, plaisir de retrouver comme chaque jour sur la première radio de France, Laurent Gérard. Question du jour sur RTL.fr. Elle concerne les gestes commerciaux de la SNCF, avec notamment ces fameux 3 millions de billets de TGV proposés à moins de 40 euros pour cet été. Est-ce suffisant pour compenser les perturbations, oui ou non? Vous répondez non à 62% et oui à 22%. Venez témoigner, argumenter au 3210, comme vient de le faire Anne des Hauts-de-Seine.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je trouve que c'est déjà un geste indispensable parce que je crois qu'on est tous usés par cette grève qui n'en finit plus. Et tout ce qui peut tenir compte vraiment, vraiment du stress et de l'horreur qu'on vit depuis un bon mois maintenant est indispensable pour que les gens essayent de retrouver un peu de baume au cœur quand ils partent bosser le matin et qu'ils ne sont pas sûrs de trouver leur moyen de transport. Voilà.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Verrez-vous un jour la prochaine saison de Koh-Lanta aux îles Fidji? Le tournage venait de commencer, il a été annulé, une décision des producteurs et comme on dit dans ce jeu de télé-réalité, leur sentence est irrévocable. Les raisons restent très mystérieuses. ALP Adventure Line Productions évoque un élément extérieur au jeu survenu entre deux concurrents au cours de la nuit du 4e au 5e jour de tournage. Fin de citation. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
En tout cas,
bonjour.
C'est une décision rarissime.
Ah oui, et d'ailleurs, soyons francs, on le sent à votre ton, la nouvelle nous a tous estomaqués. Parce que arrêter du jour au lendemain un tournage impliquant une équipe technique de 80 techniciens pour une infrastructure totale de 250 personnes et 120 locaux, faut tout de même qu'il y ait une vraie raison pour arrêter tout ça. On n'achemine pas 11 tonnes de matériel pour, au bout de 4 jours, tout laisser tomber sur un coup de tête, voire des coups de boule. Donc, d'abord, première question, quelle urgence y avait-il à communiquer par un communiqué si étrange à 0h16 sur l'arrêt d'un tournage ayant commencé 4 jours plus tôt seulement, parce que l'équipe s'attendait à des fuites, ça elle le répond. Hein. Comment empêcher les professionnels d'appeler leurs proches et comment empêcher les candidats de parler, bien qu'ils aient tous signé une clause de confidentialité? Mais la principale question concerne, vous l'avez dit, bien sûr, la nature du différend qui a contraint la société ALP à tout stopper. Koh-Lanta, comme toute émission aujourd'hui, est extrêmement prudente et briefe ses candidats. Pas de termes homophobes, sexistes, racistes, on les fait même répéter. Sauf qu'on n'arrête pas un programme rentable pour propos inappropriés, on vire les coupables. Reste donc forcément eh bien, le comportement inapprié dénoncé dans la charte de l'émission.
Ça
ne peut tenir qu'à ça. Et donc, effectivement, depuis ce matin, la rumeur insistante, étayée par le silence de tous, de la chaîne et de la production, eh bien, c'était qu'un candidat se serait rendu coupable d'attouchement dans le meilleur des cas, si j'ose dire, et d'agression sexuelle dans le pire, sur un autre, d'où un traumatisme d'équipe généralisé et une situation inédite.
Oui, d'autant que la production précise qu'il n'y a pas eu de blessés, hein, d'où cette piste potentielle.
Tout à fait, c'est la première chose qu'elle m'a dite.
D'agression sexuelle.
On va aller un peu plus loin avec notre invité qui a bien accepté de témoigner en direct aujourd'hui. C'est Wendy qui a gagné il y a 2 ans, souvenez-vous, le Koh-Lanta en Thaïlande. Bonjour Wendy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans RTL Midi. Vous avez donc gagné ce jeu. Quand la production parle d'un événement extérieur, comme vient de le dire Isabelle Morini-Bosque, on ne peut pas s'empêcher justement un problème de relation, hein, évidemment, entre candidats. Vous pensez la même chose, Wendy, aujourd'hui ?
Bah écoutez, de ce qui se dit, ça a l'air quand même assez grave. Donc si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est un peu incompréhensible. Et surtout vraiment, vraiment honteux, parce que bon, moi, ayant participé au jeu, il n'y a pas une seule fois on pense à ça. Donc... ça a vraiment été très loin et je comprends que la production ait arrêté le tournage parce que là, c'est un peu un drame collectif, quoi. Ça touche tous les candidats.
Quelles sont les règles de vie durant le jeu ?
Les règles de vie sont comme la vie de tous les jours, on va dire. Là, on est un peu en promiscuité. Il faut apprendre à cohabiter tous ensemble. Après, bon, il faut garder le respect. Et puis, bon, on est avant tout des aventuriers. Il n'y a pas de jeu de séduction ni de couples qui sont sur le jeu, du moins. Donc voilà, tout le monde se respecte, on est là pour un jeu, pour aller le plus loin possible, mais toujours dans le respect. Il y a des stratégies, certes, mais on respecte l'humain et là, ça a dépassé l'entendement.
Il y a un minimum de séduction, de pouvoir de séduction, même carrément, puisqu'on joue un jeu où on est 20 au départ, il n'y en a qu'un seul à la fin, automatiquement, Wendy. Donc il se passe des petites choses, des relations plus ou moins proches, peut-être, hein.
Bon, alors, moi, pour le cas, je vais dire sur mon aventure, bon, le premier jour, on se découvre tous. Donc, on peut dire, un tel, il a une belle petite gueule ou elle a l'air sympathique. Mais voilà, ça dure pas. On a une approche physique, mais après, ça s'arrête. Au bout de 2-3 jours, toute libido disparaît parce qu'on est dans un jeu, on est vite privé.
Oui, mais
on
a
faim, il fait chaud.
Mais justement, c'est intéressant, Wendy, parce que là, c'était au tout début du tournage. Donc, on était dans ces jours-là.
Oui, mais il y avait quand même 4 jours de passé. Je veux dire, moi, au bout de 3 jours, et même les garçons de ma saison, comme les femmes, on ne pensait pas à ça, loin de là.
Vous pensez jamais.
C'est vrai que moi, si ça a vraiment été jusque-là, ça me choque, parce que bon, on est là pour un jeu, pour l'aventure, et on n'est pas là pour faire une tentative de viol ou autre, quoi. Après, bon, c'est pas confirmé, donc c'est pas encore
bien
officiel.
Sûr.
Mais si c'est le cas, je trouve que voilà, ça a été loin, et je comprends la production de l'annulation complète de la saison.
Est-ce que vous avez des consignes, peut-être même sur votre façon de vous habiller, garçons et filles, sur l'île ?
Alors, on a tous le même sac Aventura. Avant de partir, on a une liste d'affaires à avoir, qui est, donc on envoie nos habits à la production, et qui est validée ou pas par la production. Après, voilà, ça reste des affaires d'aventure. On prend des choses confortables et surtout pratiques pour les épreuves.
Et vous avez...
Après, on ne pense pas à bikini ou... C'est pas un défilé de mode.
On vous donne aussi une mallette médicale ?
Oui, une mallette médicale qu'on a sur les deux camps, donc sur le camp de chaque couleur, qui est scellée et qu'on doit ouvrir uniquement en cas de problème.
D'accord. Parce que c'est en cas d'urgence, donc.
En cas d'urgence, c'est ça. Nous, voilà, elle était vérifiée tous les jours, pas qu'elle soit ouverte, parce que dedans, il y a une lampe torche et le talkie-walkie qu'on ne doit pas ouvrir s'il n'y a pas de problème particulier.
Oui, sauf en cas de maladie, évidemment. Il y a toujours des infirmiers
Absolument.
Tout près, des docteurs sur l'île. On l'a déjà répété avec Isabelle Morini-Bosque plusieurs fois ici. Il y a même des caméramans qui sont avec vous, puisqu'on vous voit sur l'île. Très rapidement, Wendy, est-ce la fin de ce jeu d'aventure qui a duré, qui est toujours un jeu qu'adorent les gens ? Est-ce que vous pensez qu'un coup comme celui-ci peut être fatal ?
J'espère que non, parce que c'est vrai que là, c'est quand même quelque chose de très fort. Et donc j'espère que ça ne va pas mettre à mal l'aventure et surtout l'émission, parce que bon, c'est une émission qui est suivie, qui est adorée par moi la première, et j'espère que ça ne va pas mettre la production en porte-à-faux. Même si eux n'en peuvent rien, j'espère qu'ils vont quand même pouvoir continuer par la suite à faire les sélections pour un prochain Koh-Lanta.
D'autant que le jeu est toujours rentable. Et si on l'enlève, ça fait 3 mois de vendredi à remplir.
Oui, c'est
alors
3 mois
que
complets.
55% des 15-14 ans sont toujours là.
Oui, pour trouver 5 millions de téléspectateurs.
800 000 euros l'émission, vaut mieux pas l'acheter quand même.
Du monde, hein.
Merci.
Merci Wendy d'avoir témoigné en direct d'RTL Midi. C'était un plaisir de vous retrouver. Vous qui avez gagné, on le rappelle, il y a 2 ans.
Formidable gagnante
devant Pascal dans Koh-Lanta et l'épreuve des poteaux. Si vous voulez témoigner, vous êtes ancien candidat peut-être aussi. Si vous avez peut-être même eu une aventure après, si vous respectez ce jeu par-dessus tout, si vous allez regarder jusqu'au bout, vous le défendez, ben à vous de venir nous le dire, pourquoi vous aimez ce jeu. Et si vous êtes évidemment comme nous, très surpris par ce qui est arrivé sur les 32-10, 3-2-1-0, c'est le standard de la première Radio de France.
Ils ont bloqué la maison des examens d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Les épreuves prévues par l'université de Nanterre en droit et en psychologie sont annulées aujourd'hui et demain. Ce centre d'examen est le plus grand de la région parisienne. Et pour les bloqueurs, eh bien c'est une prise de guerre aussi symbolique qu'inédite. Sur place pour RTL, on retrouve Marie Guerrier.
Les examens sont annulés et les étudiants bloqueurs y voient une première victoire, mais ils veulent plus.
On a fait aujourd'hui. On a montré que si on est solidaire, oui, si on est en masse, tout est possible. Et même, je veux dire, jusqu'à la destitution d'Emmanuel Macron.
En fait, c'est clair, nous, notre but, c'est de faire la convergence des luttes et demander le retrait de toutes les lois, que ça aille de la loi Vidal à la loi de la réforme du chemin de fer, des lois qui touchent aux services publics.
Ils sont massés à quelques centimètres des CRS qui bloquent l'entrée du centre d'examen.
On arrivait tranquillement, il y en a quelques-uns qui ont poussé, mais ils n'ont pas fait distinction, ils ont vraiment gazé tout le monde.
Ils ont envoyé les CRS, ils ont gazé les étudiants, c'est pas dans ces conditions qu'on est censé composer.
Des cheminots et des postiers sont venus soutenir le mouvement ce matin.
C'est inacceptable de passer des examens sous garde policière et dans une situation où il y a des violences policières qui ont été commises contre des étudiants qui étaient là simplement pour manifester. En tout cas, nous, en tant que postiers, ce qu'on dit, c'est que tous les syndicats devraient appeler une journée de grève en solidarité avec les étudiants. C'est ça qu'il faudrait faire.
Ceux qui voulaient passer leurs examens sont exaspérés.
En fait, sur le fond, je suis d'accord avec leur manifestation, mais pas sur la forme. Début, ok, c'était une manifestation contre la loi or, mais en fait, là, on dirait que c'est une manifestation contre les partiels, en fait. Pour moi, la plupart des personnes ne veulent pas passer leur partiel, très clairement. C'est un relâchement total des étudiants.
D'autres actions sont déjà prévues.
Reportage Marie Guerrier à Arcueil pour RTL.
RTL Midi, midi 41, opération séduction de la SNCF. Alors que le mouvement de grève reprendra dimanche, Guillaume Pépi, dans les colonnes de notre confrère du Parisien, propose 3 millions de billets de TGV à moins de 40 euros pour les périodes allant du 15 mai au 31 août. Par ailleurs, toutes les cartes de réduction, les cartes jeunes, seniors, enfants plus, week-end, seront vendues au même prix, 29 euros, et ce, entre le 23 mai et le 15 juin. Les abonnements TER seront, eux, vendus à moitié prix le mois prochain. Qu'en disent les clients ? Christian Broucaret, il est le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de la Nouvelle-Aquitaine.
C'est une opération de communication de la SNCF. Hein. C'est des promotions qui sont assez habituelles, puisque 1 million de billets avait été proposé sur les TGV des Intercités en janvier à 45 euros. Les cartes de réduction à 50%, c'est habituel, ça arrive au moins une fois dans l'année. Par contre, là où c'est nettement insuffisant, c'est pour les abonnés TER, les 300 000 abonnés TER, qui, eux, ne retrouvent pas leur compte dans les 50% qu'a promis M. Pépi.
Christian Broucaret, est-ce que cela vous paraît suffisant pour compenser cette mesure, les désagréments ? Parlons-en tous ensemble, si vous voulez bien, au 3210 3210. La ministre des Transports, elle, de son côté, Elisabeth Borne, a reçu ce matin les représentants de l'UNSA et de la CFDT. Le représentant de la CFDT, cheminot, qui tacle le gouvernement, les gestes commerciaux aussi. Il n'y aurait pas eu besoin d'en faire, de ce genre de gestes, en tout cas, de la part de Guillaume Pépi, si la réforme avait été engagée différemment.
La SNCF qui court derrière ses clients et Air France, dont le nombre de passagers a chuté de 8,7% en avril. C'est le résultat de 8 jours de grève. Le président démissionnaire Jean-Marc Janaillac est reçu aujourd'hui par Édouard Philippe. Et puisqu'on parle de transport, nous avons choisi dans RTL Midi de nous intéresser aussi aux taxis. Car la future loi d'orientation sur les mobilités, qui sera présentée à l'automne, prévoit une ouverture inédite. Le gouvernement propose d'autoriser les taxis amateurs à rouler dans nos campagnes, là où l'offre est rare, souvent chère, et les transports en commun inexistants. Ça mérite une explication. Martial Liu, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, il faudra obtenir une autorisation municipale. Et pour l'avoir, il va falloir fournir un casier judiciaire vierge et bien sûr prouver qu'on bénéficie d'une assurance à jour pour son véhicule et d'un permis de conduire. Tout ça paraît assez logique. Et comme pour Airbnb ou à l'eau voisin, il y aura un plafond de gain qu'il ne faudra pas dépasser afin que ça reste une activité d'appoint. On ne pourra pas faire ça n'importe où, vous le disiez. Ce sera uniquement dans des communes rurales où il n'y a pas de taxi, pas de car, pas de train, pas de VTC. L'idée du gouvernement est évidemment de ne pas concurrencer l'activité de taxi ou de VTC. Justement, c'est la grande différence d'ailleurs avec les offres Hitch ou Uber Pop qui avaient été interdites par la justice il y a quelques mois maintenant, mais qui proposaient ce type de service amateur dans des zones très desservies par les autres moyens de transport. Reste une zone d'ombre et de poids. Comment va-t-on fixer le tarif de ces courses? L'idée étant d'être moins cher que les taxis.
Merci beaucoup, Martial Liu.
Pour aller plus loin, nous sommes avec Rachid Boudjema, président de l'Union nationale des taxis. Bonjour.
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 Plus de taxis dans nos campagnes, ça paraît indispensable, non?
J'entendais l'intervention de Martial Liu, justement, qui disait que là où il y a une absence de taxis, je tiens à le dire, je suis président d'une fédération présente sur 83 départements, il n'existe pas de lieu où il y a une absence ou une carence de taxis. Partout en France, vous avez une présence de taxis. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est à disposition ou au moyen de tout le monde? Là, c'est une question qui mérite d'être posée, effectivement. Nous, on a des pistes à proposer, mais aucunement, encore une fois, la création d'un taxi amateur, comme on a pu l'entendre dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités.
Mais quelle piste, justement?
Mais écoutez, étant donné que le gouvernement veut subventionner, c'est de ça qu'il s'agit, hein, subventionner le transport en l'offrant à des transporteurs amateurs. Ça, pour nous, c'est un grand danger, parce que c'est la création d'un Uber Pop, c'est la création de travail dissimulé, et qui viendrait se confronter à notre profession, qui, elle, est soumise à des charges sociales, à du paiement de la TVA, à des assurances. Encore une fois, notre profession ne supportera pas un nouveau déséquilibre qui a été finement et à peine mis en place par la loi Grand-Guillaume lors du 29 décembre 2016. Et aujourd'hui, on vient bousculer avec ce qu'on appelle aujourd'hui du taxi amateur, du transport occasionnel, alors qu'on vient de le faire sortir à peine de la loi d'orientation des mobilités.
Ils sont souvent dans des zones, c'est en tout cas ce à quoi réfléchit le gouvernement, c'est ces zones où les taxis finalement travaillent beaucoup sur des transports médicalisés, remboursés par l'assurance santé, l'assurance maladie. Et c'est vrai que même si votre fédération est présente dans pratiquement tous les départements, c'est souvent sur des grosses villes, parfois dans les départements ruraux, et pas dans les petites sous-préfectures ou petites communes adjacentes.
Absolument pas. Dans les 37 000 communes en France, vous avez au moins un taxi de présent. Et ça, c'est sous l'autorité
du maire.
Oui,
mais ça ne suffit peut-être pas.
Un taxi, monsieur.
Monsieur Boudjema, un taxi, c'est une chose, mais peut-être qu'il en faudrait 5 à cet endroit-là.
Mais à ce moment-là, c'est à la disposition de chaque municipalité. Et encore une fois, elle est soumise à aucune obligation. Dès lors que le maire l'estime nécessaire, il peut délivrer ce qu'on appelle des ADS, des autorisations de stationnement, mais légales. Encore une fois, une autorisation de stationnement avec quelqu'un qui paye des charges, qui est soumis à une fiscalité au même titre que le taxi. Si demain, on décidait de transférer ce transport à des amateurs pour qu'ils puissent être exonérés. À ce moment-là, les taxis sont en mesure de faire du transport subventionné, auquel cas on dirait les taxis, vous n'êtes pas soumis à une fiscalité quand vous êtes dans une zone rurale dépourvue de transport, on vous exonère de charges. À ce moment-là, le taxi pourra se mettre à disposition et à des tarifs beaucoup plus abordables dès lors qu'ils ne paieront pas de charges.
D'accord, vous dites proposez-nous la même chose pour nos taxis, quoi, quelque part, par rapport aux amateurs.
Encore une fois, on le propose dans des zones rurales, à des conseils régionaux, de dire, écoutez, il faudrait que vous subventionnez ce transport, le taxi, avec des chèques transport, et le taxi pourrait faire ce transport.
Oui, sauf que là, ils ne veulent pas dépenser plus. L'État et les communes ne veulent pas dépenser plus en subvention. Donc pour vous, ce serait une concurrence déloyale, tout simplement?
Mais madame, c'est encore une fois une subvention déguisée. Dès lors qu'on vous dit le transport sera soumis à un plafond de rémunération, de fiscalité, il y a bien quelqu'un qui paye, in fine, c'est bien le contribuable. Puisqu'encore une fois, on permet à des gens qui occasionnellement vont faire du transport de personnes, qui ne sera pas fiscalisé et qui sera en concurrence avec des transporteurs, les taxis en l'occurrence, qui eux sont soumis à une fiscalité. Mais encore une fois, pourquoi pas parler alors dans ces cas-là du policier amateur, du parlementaire amateur, du ministre amateur,
ou des journalistes amateurs, on a compris.
Des journalistes amateurs. Mais encore une fois, il manque une police. Moi, je sillonne la France puisque je représente dans les départements et je vois que parfois il manque même de la police ou de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire que demain, on va créer une police amateur. Mais soyons un peu sérieux. Ça, c'est encore une nouvelle facétie du gouvernement et que notre profession ne pourra pas admettre et refusera Mais encore une fois, dans la loi d'orientation des mobilités, il y a d'autres projets qui nous conviennent absolument pas.
On y reviendra une autre fois. Merci en tout cas d'avoir réagi sur ce projet-là, Rachid Boudjema, et d'être intervenu dans RTL Midi. Et bien entendu, si vous êtes taxi ou si vous verriez taxi amateur en zone rurale, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 3210, on en débat tous ensemble.
Une courte pause, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des SAMU, les SAMU débordés d'appels insultants.
RTL Midi.
Christophe Paco, Christelle Robière.
Des menaces et des insultes au 15, elles se multiplient au SAMU de Strasbourg après la mort de Naomi Moussanga, une jeune femme de 22 ans dont l'appel avait été pris à la légère. Des propos que vous avez entendus et qui ont beaucoup choqué. L'une des deux opératrices a été suspendue à titre conservatoire en attendant l'issue de l'enquête judiciaire. Mais désormais, beaucoup de SAMU reçoivent aussi ce type d'appel. À l'autre bout de la France, à Bayonne par exemple, un homme a été arrêté, placé en garde à vue pour une série d'appels insultants et menaçants mettant en cause le SAMU local dans le décès de Naomi. Une plainte a été déposée par le responsable du SAMU pour harcèlement et outrage. De quoi s'agit-il, Marion Ferrer ?
Eh bien, ce sont des appels abusifs, agressifs et violents. Il est 21h mercredi soir quand cet homme décide d'appeler le centre de secours, l'heure à laquelle où les appels d'urgence sont les plus nombreux. L'agent qui décroche effectue alors des contrôles concernant l'état psychologique de la personne, lui pose plusieurs questions. C'est à cet instant que l'homme à l'autre bout du fil finit par se déchaîner, il rappelle à 19 reprises. Tara Mokni, responsable du SAMU de la Côte Basque.
C'est quelqu'un qui dit, vous êtes responsable de la mort de Naomi. J'ai mal au ventre, qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Et on lui dit, écoutez monsieur, on va vous poser des questions, où c'est que vous êtes, donnez-nous votre adresse. Il me refuse de donner. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est plus dans quelqu'un qui est malade, qui est perturbé, mais on est dans quelqu'un qui est malveillant.
Une situation pesante, récurrente pour les régulateurs médicaux, mais qui s'est accentuée depuis les révélations concernant la mort de Naomi et se propage à plusieurs SAMU de France.
Ils sont très perturbés, d'une part parce qu'il est arrivé à Naomi et qui est décédé, et puis surtout, ils se sont sentis désignés comme des responsables, et donc ça nous met en difficulté.
En effet, des faits similaires ont été relevés à Strasbourg où une plainte et plusieurs mains courantes ont déjà été déposées.
Marion Ferrer, si vous travaillez dans un centre d'appel d'urgence SAMU ou pompier, n'hésitez pas à témoigner au 3210 sur les appels de mauvais plaisantins que vous recevez en ce moment ou de manière plus régulière.
Et comme tous les vendredis, Christelle, dans RTL Midi, nous allons parler automobile avec notre spécialiste Christophe Bourreau. Bonjour.
Bonjour.
L'info de la semaine, c'est la chute du diesel. Depuis le début de l'année, il ne représente plus que 40% des ventes de voitures neuves. Et après Toyota, le constructeur Nissan décide lui aussi de cesser de produire cette motorisation que les Français adorent. Est-ce alors le début de la fin, Christophe ?
Oh, en tous les cas, cela y ressemble. Tous les éléments sont contre ce carburant. Le dieselgate, la pollution, plusieurs villes qui veulent le bannir des centres. Et maintenant, l'offre qui va baisser. Néanmoins, ce sont surtout les citadines qui, à terme, risquent de disparaître en version diesel. Déjà, pour prendre un exemple, la Twingo n'existe plus dans cette version. Mais pour les grosses voitures, les gros rouleurs, il n'y a pas photo. Le diesel reste hyper compétitif, jusqu'à 20% de consommation en moins. Et puis, il y a les entreprises qui disposent encore d'avantages fiscaux. Il y aura donc une chute des ventes qui va s'accélérer, mais pas de disparition.
Donc, alors, question logique, peut-être Christelle, on peut se la poser.
Bah oui, est-ce qu'il faut se séparer de son diesel ?
Alors, il y a deux raisons qui peuvent inciter à ça. La première, le diesel devrait devenir aussi cher que l'essence à la pompe en 2021. Deuxième raison, la décote des véhicules diesel, puisqu'il y a un afflux sur le marché de l'occasion et donc moins d'achats, moins 7% depuis janvier de véhicules diesel. Mais ouais, le phénomène est surtout fort en région parisienne, donc ne vous précipitez pas, d'autant que les moteurs récents sont beaucoup moins polluants. En réalité, on en parlera, cela dépend beaucoup, beaucoup de votre usage.
On a hâte de vous entendre sur ce sujet, bien sûr, on compte sur vous. 3210, merci Christophe, à tout à l'heure, pour en débattre tous ensemble dans RTL Midi. Question toute simple, avez-vous renoncé au diesel ou pas, alors que ces moteurs sont de moins en moins polluants, oui. Faut-il le rappeler ? Témoignez, argumentez sur la première de France.
Wanted, tueur de phoques, récompense 10 000 euros. On n'est pas aux États-Unis, mais bien en France. L'association écologique Sea Shepherd propose cette somme pour motiver d'éventuels témoins, alors que 3 phoques ont été retrouvés morts depuis le mois de janvier sur le littoral du Pas-de-Calais. 3 mammifères, Frank Hanson, tués par balle.
Oui, en effet, cela peut surprendre, mais pour l'association qui s'est fait connaître dans son combat contre les tueurs de
baleine japonais. Il faut arrêter le massacre sur la côte d'Opale. Les phoques ne sont pas toujours les bienvenus, déplore Lamia Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France.
On pense qu'il faut absolument motiver les gens qui savent quelque chose à parler, à donner les informations. Ce qu'on veut, c'est l'arrestation des coupables. On est déjà au troisième phoque avéré depuis le début d'année. Il y en a peut-être d'autres. C'est important de ne pas laisser la situation dégénérer. Il y a un sentiment anti-phoque qui est en train de monter. Il y a cette légende que répand le collectif anti-phoque qui est de dire que les phoques sont responsables de la raréfaction du poisson, ce qui est une hérésie. L'océan n'appartient pas à l'homme et n'appartient pas aux pêcheurs.
L'enquête de police n'a pour l'instant rien donné. Le comité anti-phoque, animé par certains pêcheurs, réfute toute responsabilité. Mais ces mammifères marins pourraient avoir été retrouvés dans des filets avant d'être abattus, selon des enquêteurs. En tout cas, tuer une espèce protégée peut coûter jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Frank Hanson. Enfin, des nouvelles de l'Eurovision. Le couple français avec sa chanson Merci passera en 13e position demain soir à Lisbonne.
Bon,
les bookmakers les donnent 3e. Enfin bon, l'histoire nous a appris à nous méfier de ce genre de cote. Par ailleurs, l'organisateur de ce rendez-vous aux 200 millions de téléspectateurs vient d'interdire à une plateforme vidéo chinoise de diffuser la finale, puisque cette plateforme vidéo avait censuré de la demi-finale un couple gay et un artiste tatoué qui ne correspondait pas, je cite, aux valeurs centrales du socialisme.
Si on a envie de parler d'Eurovision, on peut en parler quand même nous sur RTL. 32-10, 3, 2-1-0, avons-nous une chance de gagner? Qui sait? Madame, monsieur, on vous attend. 32-10, 3, 2-1-0. Mais auparavant...
La météo de Patricia Charbonnier.
Ah oui, Patricia.
La météo, Patricia Charbonnier, dansons sur le pont de l'Ascension, enfin aujourd'hui.
Ah oui, aujourd'hui c'est la plus belle journée justement de ce long pont de l'Ascension avec le soleil qui est revenu pour toute la journée sur la plupart des régions. On a toujours un petit peu d'instabilité du côté des Alpes pour cet après-midi, donc encore quelques averses et encore une activité orageuse en montagne. Et puis attention, du côté de l'Atlantique, là le temps est en train de changer cet après-midi avec une perturbation qui va arriver, qui va donner un ciel de plus en plus nuageux et déjà de la pluie en ce moment sur la pointe du Finistère avec des températures qui étaient bien fraîches ce matin pour les Saintes-Glaces. On avait des petites gelées blanches dans la Marne ou encore dans la Creuse. Cet après-midi, c'est très doux, c'est printanier. 24 à Strasbourg, 23 à Paris et Marseille, 21 à Lille, mais seulement 14 degrés à Brest.
Et demain, c'est le grand bond en arrière.
Conditions météo très mauvaises, automnales, avec cette perturbation qui va toucher toute la moitié ouest du pays. Et les pluies seront soutenues, des pluies qui vont même s'intensifier au fil de la journée, en particulier dans la partie sud-ouest, entre les Pyrénées et le Massif central, des pluies à caractère orageux et sans doute des orages localement forts avec de la grêle et de fortes rafales de vent, alors que sur l'est du pays, ce sera encore une journée assez calme, avec un ciel lumineux, grand soleil même dans la vallée du Rhône et sur la côte d'Azur, mais toujours cette tendance orageuse en montagne. Des températures comprises entre 4 et 15 degrés demain matin, et donc des températures qui vont chuter par l'ouest du pays, avec seulement 14 degrés demain après-midi à Nantes, 21 à Nice, 22 à Paris et encore 27 à Strasbourg. Et avec cette baisse des températures pour la journée de dimanche, le temps sera vraiment très instable, avec de la neige en moyenne montagne, bonne chute de neige attendue notamment sur le massif central
à
partir
de 1000 mètres. Ça n'en finira jamais, c'est ça. Merci Patricia.